Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit.net. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Biwix, alors ingénieur de formation. Philippe, tu es aujourd'hui directeur général d'AREP, si je ne fais pas d'erreur, une agence d'architecture interdisciplinaire filiale de la SNCF ou de SNCF Gare et Connexion, qui intervient à la fois en France et à l'étranger. Tu es donc un acteur actif de la fabrique de la ville, mais tu portes aussi une autre casquette, celle d'auteur engagé dans les transitions, avec des ouvrages très remarqué, comme l'âge des low-tech ou le bonheur était pour demain, par exemple. Alors, tu m'as aussi fait l'honneur d'écrire la préface de la nouvelle édition du Manifeste pour un urbanisme circulaire. Alors, en plus de constituer l'introduction qui manquait à mon livre, que j'avais oublié d'écrire, c'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain qui est particulièrement intéressante. Alors, c'est pour ces deux casquettes d'acteur et d'auteur que j'avais envie de prolonger nos échanges écrits par un échange direct. Alors, merci d'être là, Philippe, et bienvenue parmi nous.
Merci Sylvain, bonjour. Et merci pour cette sympathique invitation. Je suis ravi d'être ici pour pouvoir effectivement parler un petit peu de la ville, de la transition nécessaire à l'échelle urbaine, qui n'est pas forcément un sujet sur lequel j'interviens si souvent. On m'invite souvent à venir surtout sur les low-tech ou l'impact du numérique, mais avec un angle spécifiquement urbain, c'est presque nouveau, donc c'est très sympathique.
Alors, on est entre nous pour débattre, pour débattre et échanger. L'idée, c'est vraiment pour nous de poser aussi quelques faits, de revenir aux sources avec, pour moi, pas mal d'inspiration, notamment dans tes écrits, notamment sur la compréhension des crises. Alors, pas de la crise dont on parle beaucoup. On dit ces derniers mois, mais on va bientôt dire cette année, avec la pandémie, mais finalement aussi des autres, toutes celles qui pointent leur nez, le climat, la question des ressources, l'atteinte aux écosystèmes, etc., etc. Alors, tu parlais d'urbanisme ou de fabrique de la ville, j'aime bien ce terme-là. Quelles sont les crises qui, à ton sens, nous concernent le plus directement en tant qu'acteurs de cette fabrique de la ville, ces crises ou ces enjeux qui nous obligent à faire transition?
Tu les as cités presque dans l'ordre où je les aurais cités, c'est-à-dire qu'il y a d'abord évidemment la question de l'énergie et du carbone, puisque le secteur de l'habitat au sens large, alors effectivement on n'habite pas que dans les villes, mais enfin on commence à devenir quand même très urbain en France, c'est de l'ordre de 45% de la consommation d'énergie finale. Alors en carbone, évidemment il y a des effets mix entre le chauffage électrique et autres joyeusetés, donc je vous passe les détails, mais effectivement, en plus, ça s'ajoute à ça la question du ciment, bien entendu, qui est un émetteur de gaz à effet de serre très important, à la fois à travers le process industriel qui demande à chauffer le calcaire pour en faire du clinker, mais aussi qui émet du CO2 par le fait qu'on transforme tout simplement du calcaire enfin, c'est un CO3 et comment faire partir une molécule de CO2 au passage. Il y a la question de la matière, évidemment. Donc, c'est le bâtiment en France, enfin, la construction en France, c'est 40% d'acier, c'est 20% d'aluminium, c'est 25% de tous les plastiques, beaucoup de PVC, évidemment, en particulier. Et puis, c'est sur la question de la biodiversité, c'est la question, entre autres, la question des sols, la question de l'étalement urbain qui est vraiment très importante. Alors, la chute de la biodiversité en France, elle n'est pas que liée à l'étalement urbain. Il y a évidemment beaucoup de choses autour de la question des pratiques agricoles, autour de la destruction d'habitats ou du morcellement des habitats par des axes de transport, etc. Mais quand même, globalement, cette question d'étalement urbain, pour moi, elle est prégnante, puisque on n'a pas que les métaux ou le pétrole, les énergies fossiles comme ressources non renouvelables. Le sol lui-même est une ressource non renouvelable, à la fois la couche arable, évidemment, qui s'envoie d'ailleurs pour partie par érosion éolienne ou hydrique à la mer un petit peu chaque année, pas trop vite, mais enfin il y en a que pour quelques siècles à la vitesse où on va aujourd'hui, et puis le sol lui-même qu'on artificialise et qui finira par nous poser problème. Alors on sait qu'on a des petits écarts statistiques en fonction des études, en fonction des années de référence. Donc, on avait échangé là-dessus à l'occasion de la rédaction de la préface, mais bon, on va dire avec une grosse fourchette, on se promène entre 30 000 et 60 000 hectares à l'année. Eh bien, ça, finalement, si on prend la fourchette haute plutôt dans les départements les plus dynamiques, on va dire, enfin, autour des métropoles, etc., ça veut dire qu'en quelques siècles, on aura totalement artificialisé le territoire. C'est évidemment une absurdité. Donc, ça va pas se passer comme ça. Mais évidemment, plus tôt on prendra le virage du zéro artificialisation brute, et mieux on se portera, évidemment, pour des questions de résilience alimentaire et de biodiversité.
Cette question du sol sur laquelle on viendra sans doute, mais j'avais envie de revenir quand même ce que moi j'ai retenu, c'est-à-dire un peu les fondamentaux aussi de ton message en termes de moyens de la transition finalement, notamment une critique assez précise hein, sur les questions du solutionnisme technologique, mais tu vas pouvoir nous en parler, et plutôt une proposition, une approche dite low-tech, peut-être qu'avant de se dire ce que ça veut dire, ou peut-être se dire même directement ce que ça veut dire à la fabrique de la ville, finalement l'application de principes de low-tech, et aussi de sortir de cette question de la solution technologique qui sera finalement la nouvelle solution au nouveau problème. Je rajouterais même le solutionnisme législatif ou réglementaire. C'est l'impression qu'on peut, en changeant les curseurs, finalement changer le système, ce qui est sans doute pas suffisant. Alors, c'est quoi le low-tech et comment ça peut s'appliquer alors au bâtiment, certes, mais à la ville dans sa globalité?
C'est une méfiance avant tout. Au départ, c'est peut-être presque un cri d'alerte sur la question de la course en avant technologique qui ne va pas résoudre les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est vrai qu'on a une tendance à toujours, parce que l'humanité a été formidablement inventive, évidemment, en particulier ces deux ou trois derniers siècles, on a cette tendance toujours à dire finalement à tout problème une solution, et en particulier une solution technique. Donc, les voitures émettent du CO2 ou des particules, on va les passer électriques. L'aviation pose problème, on va faire de l'hydrogène. Et puis, évidemment, cette fascination pour la solution technologique, la ville n'y échappe pas. Alors, ça a donné plutôt la version Smart City. Alors, Smart City, ça fait quand même quelques temps maintenant que traîne le terme. Finalement, personne ne sait trop le définir. Est-ce que la Smart City, c'est la ville inclusive basée sur l'intelligence de ses habitants? Est-ce que c'est une ville ultra technologique bourrée de capteurs? Alors, si je prends uniquement la partie environnementale, parce que évidemment on pourrait dire la Smart City c'est aussi une ville démocratique basée je sais pas quoi sur des discussions numériques et puis des référendums où on peut cliquer pour décider ce qu'on fait, mais sur la partie environnementale, malheureusement, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, là, quand il avait fallu mouiller un peu la chemise sur le débat sur la 5G à l'automne, avait dit les villes auront besoin de la 5G pour mener leur transition environnementale. Il y a besoin justement de cet univers un peu de connecté pour devenir un petit peu tous producteurs, consommateurs d'énergie et partageurs en optimisant tout ça avec des outils numériques. Mais finalement, quand on regarde les cas d'usage, enfin, je les cherche désespérément, donc je serais ravi d'avoir si quelques
auditeurs... La voiture autonome.
Oui, alors évidemment, la voiture autonome. Mais alors, la voiture autonome, il faudrait faire une séance complète là-dessus. Il se trouve qu'il y a plein de voitures autonomes. Il n'y a pas que la voiture autonome qui partage. Il y a aussi la voiture autonome qui sert de bureau mobile et qui crée un effet rebond parce que finalement, je peux habiter à 70 km de mon boulot puisque je vais partir à 7 heures du matin, éviter les embouteillages et travailler dans ma voiture. Donc c'est pas forcément et malheureusement automatiquement si intéressant que ça. Alors du coup, j'ai bien vu passer quelques poubelles connectées peut-être qui permettraient d'optimiser les déplacements de camions pour aller venir ramasser les conteneurs de verre, mais globalement il y a assez peu de choses, en fait c'est assez creux, alors que par contre, en face de ça, il y a un réel coût environnemental possible de cette technologisation, excusez-moi le quasi-néologisme. En fait, cette technicisation de la ville, elle génère de la consommation d'énergie, elle génère de la consommation de matière, des capteurs qu'on va installer un peu partout, etc. Et je trouve que tous ces dispositifs high-tech sont assez difficiles à recycler. Par nature, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont miniaturisées, qui sont optimisées, qu'on est presque dans des usages dispersifs, des usages dissipatifs. Vous voyez, un smartphone, ça contient 40 métaux différents et avec des toutes petites quantités. Et puis, quand on va amener tout ça au recyclage, c'est quand même très difficile à démonter et gérer. Donc, le high-tech, en fait, engendre une consommation de ressources finalement accrue. C'est un petit peu embêtant. nous éloigne de l'économie circulaire alors qu'on devrait s'en rapprocher, on devrait essayer de s'en rapprocher. Et donc, il faut faire preuve d'un extrême techno-discernement et utiliser justement ces ressources précieuses seulement aux endroits spécifiques où on en aura besoin et où le rapport, coût-bénéfice, diraient les économistes, sera absolument démontré, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant. Donc, du coup, les high-tech, les low-tech, c'est de se dire... Attention à high-tech. Il y a un autre effet, c'est celui que je mentionnais sur la voiture autonome, c'est la question de l'effet rebond. C'est-à-dire que, oui, on a des technologies indéniablement qui deviennent de plus en plus efficaces, parce que c'est aussi une manière d'être efficace économiquement, mais ça peut générer ou ça génère de l'effet rebond, c'est-à-dire qu'une partie de l'efficacité va être mangée, voire même parfois ça va faire carrément bondir les volumes. C'est le cas dans le numérique, bien entendu. Ça a été un peu le cas dans l'aérien, dans le monde d'avant. Hein, vous avez des meilleurs, vous utilisez moins de kérosène, vous optimisez le remplissage, etc. Mais vous avez des tickets moins chers et vous pouvez faire des allers-retours à Budapest pour un week-end spa sympathique. Donc tous ces effets là fait que finalement, historiquement, malheureusement, tout le progrès technologique n'a pas permis d'abaisser la facture environnementale globale, et au contraire, a même eu tendance à l'accélérer malgré, je dirais presque, les progrès technologiques. Et donc, les low-tech, c'est cette méfiance-là qui consiste à partir dans une démarche qui serait d'orienter vraiment l'ensemble de nos décisions à toutes les échelles, à toutes les phases, vers l'économie de ressources réelles, vers la capacité à capturer réellement ces effets de la technologie intéressants quand il y en a. Et donc ça passe aussi par les usages, par les comportements. Et donc c'est des solutions socio-techniques finalement et pas juste des solutions organisationnelles et pas seulement des solutions techniques. Et donc en gros, moi j'aimerais résumer ça en trois questions qui sont finalement le pourquoi, le quoi, le comment. Le pourquoi, c'est le pourquoi pourquoi est-ce que je construis quelque part, hein, pourquoi, donc, ou pourquoi je construis un bâtiment ou un objet, ou pourquoi je construis la ville. Donc ça pose la question de la sobriété, de la frugalité. La question ensuite du quoi, qu'est-ce que je construis, qu'est-ce que je fabrique. Donc là, c'est effectivement la notion d'éco-conception au sens large, où là, il y a évidemment déjà beaucoup de choses qui sont parties, mais il faut aller plus loin et on peut vraiment faire de l'éco-conception plus, en prenant peut-être plus en compte d'ailleurs la question de la matière, alors qu'on a eu une tendance peut-être historique à évidemment mettre l'éléphant CO2 et carbone au milieu de la pièce et à le voir, mais sans finalement regarder ce qu'il y avait sur les bords. Et puis la question ensuite du comment, il y a aussi tout un questionnement sur, justement, en termes de techno-discernement, sur ce que doit faire la machine et ce que doit faire l'humain. Par exemple, de se dire, est-ce qu'un bon bâtiment du futur, c'est un bâtiment bardé de capteurs et d'automatismes, qui d'ailleurs sera pas forcément bien pris en compte par les utilisateurs. Il y a souvent des dévoiements. Enfin, on constate que le smart building est pas forcément facile à appréhender et à faire vivre sur la durée, ou est-ce que finalement il faut le retour du concierge et du gars qui fait un peu la maintenance et qui se promène en fermant les fenêtres le soir pour être sûr que tout le monde est passé, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ces trois questions là qui peuvent se poser et qui peuvent du coup se poser dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine du bâtiment et dans le domaine de la ville.
Et aussi sans doute associé à ça une forme de désillusion aussi par rapport à cette technologie qui va sauver le monde, notamment à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle de la ville, parce qu'on est sur du temps long. Et il y a une forme d'obsolescence rapide finalement de ces solutions. Le bâtiment, il doit vivre plus que les 10 ans de vie de l'équipement ou de la maintenance du logiciel, du super système de ventilation. L'équipement qui est posé dans la rue, c'est finalement une partie du mobilier urbain, et le mobilier urbain doit vivre 30 ans exposé aux éléments et aux aléas de la rue. On est aussi finalement complètement coupé. Il faut qu'on construise aujourd'hui des choses qui vont affronter des inconnus, c'est-à-dire le contexte, pas que climatique, hein, mais aussi social, démographique, etc., qu'on aura dans 10, 20, 30, 40 et sans doute plutôt 50 ans pour le cas d'un bâtiment, puisqu'il faudra bien qu'on arrive à avoir ces durées de vie-là. Alors, donc tu le poses, c'est pas qu'une question de choisir la technologie dont une serait high et l'autre serait low tech. C'est revenir finalement au cœur de la question, au sens de la question. C'était un des éléments aussi dans ta préface sur la question de l'évitement. Mais c'est aussi finalement fondamentalement une invitation à revenir à la question des besoins. Est-ce qu'on a besoin de faire, hein? Donc, c'est pas seulement construire mieux, mais aussi construire moins, voire même ne pas construire. Hein, donc tu re-questionnes tout ça. Tu as déjà jeté ce terme de sobriété, certains parlent de frugalité, peu importe le terme, on voit bien en tout cas ce que ça veut dire. C'est pas simplement s'organiser ou inventer de nouvelles solutions, mais se poser la question du besoin, se reposer la question du besoin réel. Alors ça a quelques impacts, hein, notamment pour des professionnels, et on est nombreux là autour de la table, quelques impacts sur nos pratiques. Est-ce que tu pourrais un peu nous préciser tes pistes pour avancer sur le sujet, c'est-à-dire comment changer nos pratiques pour revenir non pas à la solution au problème, mais à mieux poser le problème, mieux poser la question, mieux définir les besoins.
Effectivement, j'ai rien contre le construire mieux, évidemment, et il y a beaucoup de choses qui évolue dans ce domaine-là, et on peut penser par exemple au progrès d'ailleurs assez phénoménaux dans la construction bois typiquement, mais ce qu'il faut quand même se mettre en tête, alors j'ai pas encore fait tout à fait le calcul de pointable, mais je me promets de le faire dans l'année qui vient, mais si on voulait par exemple tout éco-construire en termes de quantité de mètres carrés qui sont bâtis chaque année, je pense qu'on aurait assez vite un problème si on voulait se tourner à 100% vers le géosourcé, le biosourcé, quoi. Et donc c'est pas pour rien d'une certaine manière qu'au 19e siècle nous sommes extraits grâce au ciment Portland, grâce à l'acier, au progrès de la chimie, on s'est extrait des contraintes surfaciques, hein, dans lesquelles on était effectivement de fait depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, si on veut se réinscrire dans ces limites surfaciques, dans ce que peut produire effectivement typiquement un territoire en termes de quantité de matériaux, eh bien en fait, compte tenu de la quantité qu'on construit, ça sera très très dur. Donc on peut effectivement aujourd'hui se faire plaisir avec, je dirais, quelques réflexes qu'on introduit, certes, peut-être un certain nombre de bâtiments emblématiques, mais finalement qui sont peut-être un peu des niches, quoi. C'est vraiment le promoteur ultra motivé qui a dû faire un petit peu de surenchère pour réussir à choper le foncier, ou bien le bâtiment public avec quelqu'un de très engagé. Mais globalement, on a besoin, je pense, on va être obligé de passer le pic de l'architecture, dit Raphaël Ménard, mon président, et de construire de moins en moins. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça paraît peut-être un peu choquant, mais finalement, si on appliquait ça à nos objets du quotidien, si on se disait demain que, je sais pas, nos machines à laver, nos fers à repasser et nos téléphones portables sont mieux réparables et mieux réparés, et qu'on les jetait trois fois moins souvent, et qu'on divisait par trois la consommation, enfin la production de tous ces produits, ça choquerait personne en disant, bah oui, après tout, pourquoi pas, c'est la fonction qui nous intéresse, c'est l'utilisation. Donc là, comment est-ce qu'on transcrit ça à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle de la ville?
Comment on sort de l'obsolescence programmée finalement dans le bâtiment? Programmée inconsciemment sans doute, mais...
Il y a deux choses. Il y a effectivement, je pense que l'obsolescence des lieux est réelle. Alors c'est effectivement peut-être des bâtiments en termes de structure vont tenir, sont capables de durer 40-50 ans. Bon, après dans l'aménagement intérieur, il y a déjà une certaine obsolescence qui fait que en réalité on renouvelle tout ça un petit peu plus souvent. Et puis il y a effectivement aujourd'hui ça peut être sur des bâtiments de commerciaux, demain peut-être sans doute même sur des bâtiments de bureaux quand on voit par exemple les évolutions liées au télétravail, etc. Il y a un réel risque, une réalité, et puis un risque accru dans le futur d'obsolescence accélérée, parce que on va effectivement connaître des changements profonds. Alors les changements, ils seront liés à l'évolution climatique. Le coup est déjà parti, donc on sait qu'il y a des choses qui vont bouger. Donc la question des îlots de chaleur urbains, etc. Mais pas que. Enfin, c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. C'est pas juste que là on va avoir chaud 10 jours par an au lieu de 5. Mais il y a la question de l'évolution des modes de production et de consommation. Hein. Toute la question autour de la ville productive, autour de la logistique, autour du métabolisme de la ville. Ça, effectivement, on doit relocaliser des choses. Alors, pas tout, évidemment, mais un certain nombre de production sensible dont on veut, sur lesquelles on veut avoir la main, etc. Ben, il faudra savoir aussi les accueillir. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer des bâtiments qui, de plus en plus, devront être soit multifonctionnels, soit en tout cas adaptables, pour se dire finalement, bah oui, le coût carbone de mon bâtiment, je l'amortis sur une certaine durée, et si je l'amortis sur 15 ans ou si je l'amortis sur 30, ben, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, il y a la question numérique, du monde, du nombre de mètres carrés lui-même. Alors là, on a vraiment la question de se dire quel est le. On sait très bien que finalement 70 ou 80% de. Là aussi, je jette un chiffre, mais c'est pour se donner un ordre de grandeur du bilan carbone d'un bâtiment est embarqué au stade de la programmation en réalité. C'est-à-dire que voilà, en fonction de le meilleur moyen de ne pas consommer de matériaux, le meilleur moyen de ne pas émettre de CO2, que ça soit en exploitation ou que ça soit à la phase de construction, l'énergie grise, c'est de ne pas construire. C'est évident. Donc, si vous construisez un bâtiment de 1200 m² ou un bâtiment de 600 m², vous n'aurez pas le même bilan carbone. Si vous faites 6 mètres de hauteur sous plafond ou 4 mètres de hauteur sous plafond, vous n'aurez pas la même chose. Donc, je suis évidemment pas en logement, mais plutôt en bâtiment public. Après, il y a d'autres questions, parce qu'évidemment, il faut que tout ça, ça soit embarqué aussi avec un peu de geste architectural tant qu'à faire. Et si on peut plutôt embellir la ville plutôt que l'enlaidir, alors on peut imaginer que la ville s'enlaidit ou continue à s'enlaidir. Puis avec les réseaux 5G, on portera tous des casques de réalité virtuelle qui nous embelliront virtuellement la ville. Hein, c'est une
Merci
possibilité
pour cette solution.
Aussi. Voilà, elle existe, hein, après tout. Hein, on sait qu'une application de la 5G, ça sera le jeu en ligne en temps réel, et donc on pourra tout à fait imaginer que vous avez quand même les personnes, les obstacles devant vous qui sont simulés. Donc on peut tout à fait imaginer une rue virtuelle tout à fait belle. Il faut construire moins. Alors comment on va construire moins? Il y a la question d'abord du juste dimensionnement. Il y a un certain nombre de cas. On va prendre des marges de sécurité. On va regarder des questions de fréquence. On va se mettre plutôt sur la pointe plutôt que sur la moyenne. Je sais pas. Enfin, il y a mille cas possibles où on peut se dire que finalement, on devrait. Alors, ça peut être le dimensionnement du bâtiment lui-même. Ça peut être le dimensionnement des équipements, des questions de ventilation, des questions de chauffage. Voilà. Et je vais vous mettre un 15 kVA. Ben non, vous devriez passer à 30. C'est presque le même prix. Et comme ça, on sera sûr qu'il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et puis surtout la question de l'intensification de l'usage des lieux. Alors, l'intensification des bâtiments, alors moi je cite souvent les écoles, dans ton livre tu avais cité une cantine je crois, voilà, c'est une école de la République, c'est très mal utilisé, c'est pas parce qu'on n'y apprend rien, mais parce que voilà, c'est pas ouvert le soir, c'est pas ouvert le week-end, c'est pas ouvert pendant les vacances, donc c'est très peu utilisé. Alors si vous avez, est-ce qu'on peut imaginer demain, avec des schémas d'utilisation des clés, avec des programmes intelligents, avec des adaptations intelligentes, des entrées sorties dédiées, etc., d'avoir, l'école, elle devient accueil du club des associations, du truc de bricolage, ressourcerie, recyclerie, la cour d'école devient un parc, le week-end, un parc arboré le week-end. Et puis c'est vrai pour des bâtiments, mais c'est vrai aussi pour l'espace public. C'est-à-dire finalement, il faut mieux peut-être la place du marché, qui va être effectivement une fois un marché, mais ça consommera des mètres carrés pendant seulement un certain temps par rapport au supermarché qui sera construit à côté. Ça pourra être la brocante, ça pourra être les tables de ping-pong, les joueurs de boules. Voilà, il y a tout un usage qui peut s'optimiser sans forcément devenir évidemment non plus dans l'ultra. Concentration humaine, dont on sait d'abord pour l'instant que c'est pas trop compatible à court terme avec la crise sanitaire, mais même au-delà de la crise sanitaire, il y a aussi le besoin d'espace, le besoin de verdure, le besoin de nature est aussi une réalité. Donc il faut aussi évidemment jouer avec cette injonction contradictoire, mais voilà, l'avenir est à l'adaptabilité, à la mutualisation, à la polyvalence, peut-être à l'hybridation d'ailleurs entre public et privé. Imaginez les choses. Le télétravail, quelque part, c'est une hybridation entre l'espace public et l'espace privé. C'est-à-dire, finalement, si je construis demain j'utilise moins de bureaux, que je convertis des bureaux vers des logements. D'ailleurs, moi, je rêve que le Paris haussmannien redevienne plus des logements que des bureaux d'avocats pour baisser le, voilà. Il y aura des beaux travaux à faire pour les architectes, pour les refaire muter. Eh bien voilà, finalement, j'ai utilisé plus mes mètres carrés à la maison plutôt qu'avoir construit des mètres carrés à côté. On peut imaginer plein de choses. Il y a des gens qui travaillent sur le fait finalement la crèche déportée dans la maison avec des assistantes maternelles. Enfin voilà, il y a mille manières de faire. Il y a évidemment la question de l'habitat partagé, mais qui est plus complexe et qui, à mon avis, restera un peu une niche, parce que dès qu'on vient dans la sphère privée. Bon, voilà, il y a peut-être des aventures de vie qui peuvent se passer, mais il me semble que c'est en tout cas quelque chose qui sera difficile à complètement généraliser. Mais enfin, en tout cas, voilà, ce sont toute une série de pistes qui peuvent s'ouvrir.
Alors, mille manières de faire, hein, tu viens de l'illustrer très, très clairement, et en même temps, c'est une façon de faire qui est de toute façon différente. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'inversion des processus de réflexion, des responsabilités, de la chaîne d'acteurs, de la chaîne de décision, etc. Oui, c'est sans doute au programme que beaucoup de choses se passent, mais finalement, cette réflexion-là du programme, donc ce retour aux besoins, ce retour à l'usage, ça doit sans doute devenir la responsabilité de chacun, c'est-à-dire aussi l'urbaniste, l'ingénieur ou conducteur de travaux qui peut re-questionner tout ça. Donc, tu le disais, hein, le bâtiment, pour globalement amortir l'investissement carbone qu'on va faire dedans, mais l'investissement en matière aussi. Il faudrait qu'il ait cette vie comme un chat, qu'il soit adaptable et qu'il puisse vivre des usages différents, qu'il évolue dans le temps. Sans doute doit-on être plus raisonnable, plus sobre, dit-on, aussi dans nos dimensionnements, notamment avec tout cet enjeu. Est-ce qu'on dimensionne pour la pointe ou pour la moyenne? Et aujourd'hui, tous nos équipements, toutes nos infrastructures sont dimensionnées au cas où. Pour le moment où ça se passera le moins bien, mais la clé, c'est sans doute aussi de re-questionner les usages de ces bâtiments-là, c'est-à-dire mieux les utiliser, c'est sans doute avoir besoin de moins mètres carrés. Et on voit bien que ça repose des questions qui sont des questions de régulation, d'organisation, de processus, et plus des questions de design, de dessin ou d'ingénierie. C'est quoi? C'est de nouveaux métiers, d'autres façons de le faire? C'est une prise de conscience de ceux qui sont déjà devant la planche à dessin ou des maîtres d'ouvrage? Ça se passe où?
Je pense que ça part quand même d'abord de la commande, hein. C'est-à-dire effectivement, c'est d'abord chez le maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'effectivement, évidemment, il peut y avoir du conseil au maître d'ouvrage, il peut y avoir au moment de la conception, des idées intelligentes, etc., qui se mettent en œuvre, mais tout part quand même de la commande et on doit bien s'inscrire dans cette commande. Donc, je pense que il serait illusoire de se dire que l'ensemble des acteurs motivés dans toute la chaîne et la complexité, le millefeuille du monde de la construction, que ça suffirait en fait à réaliser cette mutation. Et je dis la même chose d'ailleurs sur la question de la consommation et de la production durable, on va dire au sens large. C'est-à-dire que il y a aussi des questions réglementaires, il y a aussi des questions fiscales qui fait que voilà, aujourd'hui, bien on a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on recycle pas bien les téléphones. C'est parce que quand vous avez 2 euros de matière première dans le téléphone, vous n'allez pas mettre quelqu'un avec un petit tournevis pour tout démonter avec sa pince à épiler pour bien séparer les composants et les recycler mieux. Bien, c'est la même chose en fait à toutes les échelles et dans le bâtiment aussi. Donc, si on prend par exemple la question de l'artificialisation, donc je salue une certaine prise de conscience parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, ce truc était totalement encore souterrain. Peut-être qu'il y avait quelques endroits qui commençaient un petit peu à craquer où les gens s'alertaient. Mais voilà.
Il y avait Télérama qui titrait sur la France moche.
Voilà, exactement. C'était plus effectivement sur la question des entrées de ville, etc., et de l'uniformisation des enseignes, etc., qui faisait qu'effectivement on a plus trop l'impression de voyager. Bon, ça c'est vrai aussi dans les aéroports et dans les capitales européennes et même dans beaucoup de villes maintenant. Mais voilà, cette question d'artificialisation, elle est venue sur la table. C'est intéressant. Maintenant, il faut agir. Et là aussi, quelque part, le coup est un peu parti. C'est-à-dire que si je prends la somme des PLU ou des SCOT de France, eh bien, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'artificialiser, en tout cas techniquement, quoi. Donc, et que d'une certaine manière, on sait que ça sera toujours plus simple de construire greenfield que brownfield. Les questions de dépollution, alors même si après viennent quelques pichenettes réglementaires diverses et variées de trames vertes, bleues ou ce qu'on veut, vont venir un petit peu complexifier peut-être le truc, ou bien la séquence effectivement éviter, réduire, compenser. Alors moi j'aime bien le éviter, oui. Effectivement, parce que la compensation, j'ai toujours un petit peu un doute, je comprends pas très bien exactement le mécanisme. J'avoue que faudrait que je me le fasse un peu m'expliquer, mais bon, on sacralise peut-être des hectares quelque part ailleurs, mais bon, finalement.
J'ai peur que sur la question du sol, ce soit pas tout à fait clair encore.
Voilà, donc ça va être voilà, le réduire. Bon, on en a parlé, voilà. Bon, mais effectivement, ce zéro artificialisation, il y a bien un moment, il va falloir qu'il se transcrive d'une manière ou d'une autre dans les PLU ou dans des dispositifs fiscaux. Qui feront qu'il y aura un rééquilibrage, hein, et qu'il n'y aura pas des effets d'aubaine finalement pour des détenteurs de zones naturelles, de forêts, de terres agricoles. Finalement, alors, on pourrait se dire historiquement, peut-être, là aussi, il faudrait faire que les économistes s'emparent du sujet, mais peut-être que l'agriculture française a bout de souffle d'une certaine manière pour partie. Elle a tenu, grâce à la vente de terrain au niveau de la commune, elle a tenu, je dirais, économiquement, hein, financièrement, grâce aussi à cet apport-là. Et bon, là, encore une fois, je veux dire, pourquoi est-ce que quand on a hérité de 45 hectares de, je sais pas quoi, de zones de friche, on pourrait devenir millionnaire du jour au lendemain, ça, juste parce que la métropole s'est étendue. Enfin, il y a aussi un côté de justice sociale derrière tout ça, hein, qui pourrait rejoindre la question du déplacement, du coût de la mobilité, enfin, qu'on fait les gilets jaunes, hein, qui fait que voilà, il y a des choses qui seront sans doute courageuses, pas évidentes, sans doute à remonter plus haut que le niveau de la commune, parce qu'effectivement, il y a des pressions peut-être au niveau de la commune qui font que voilà. Alors c'est déjà le coût est un peu parti, mais tout ça est une inertie quand même assez terrible et 2050 et demain matin quoi d'une certaine manière pour ça. Donc il y a vraiment, je pense, une vraie prise de conscience à avoir. Alors je sais que voilà, il y a un petit peu de poussée verte à gauche à droite et d'autres élections qui se préparent. Donc il y a quand même il y a du bouger en tout cas dans la posture, je pense. Et donc il y a des PLU qui se lancent en révision un petit peu partout sûrement, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire.
Alors, je confirme, hein, beaucoup de chemin à faire sur la question et aussi une belle avancée sur la prise de conscience qui se fait un peu à tous les niveaux, tant les élus, les professionnels que les citoyens, sur cette question compliquée, hein, de l'artificialisation des sols, en tout cas compliquée à expliquer, ou qu'on prend pas le temps d'expliquer, mais quand on l'explique, et la Convention citoyenne l'a aussi montré, finalement, quand on l'explique, c'est compris, et on comprend la nécessité d'un virage. Alors, virage pour aller contre l'artificialisation, hein, finalement contre cette conquête de la campagne pour bien peu d'usage urbain au final, ce qui implique aussi de se retourner vers la ville existante. Alors tu parlais de 2050, il y a cette espèce de d'horizon qui est plutôt un cap linguistique, enfin une façon de parler entre nous pour dire que c'est tout de suite et en même temps c'est pas maintenant, en même temps c'est très long de faire la ville. Donc, si on veut adapter notre ville aux enjeux de 2050, notamment aux enjeux climatiques, même si on a dit qu'il n'y avait pas que ça, on a intérêt à commencer dès maintenant, hein, voire même on est déjà un petit peu en retard. Et puis, de toute façon, si on garde le rythme de construction actuel, globalement, on a déjà les deux tiers de la ville de 2050 qui est là, qui est sous nos pieds, on habite dedans, on travaille dedans. Ça veut dire que se concentrer sur le neuf, sur ce qui se renouvelle, même si c'est dans le périmètre de l'emprise déjà urbanisée, quoi qu'il en soit, ça permet pas de porter les réponses. Il faut aussi traiter et se réorienter, se retourner vers quelque chose d'assez négligé, c'est-à-dire le déjà là, l'existant, pour le transformer, pour l'adapter, pour le renouveler, le changer d'usage. Alors, ça aussi, ça implique des changements importants sur nos pratiques. On le sait, hein, travailler sur de la réhabilitation, sur du renouvellement urbain, c'est pas la même chose que travailler sur du neuf ou de l'étalement. Qu'est-ce que, à ton sens, ce virage-là implique, et puis comment est-ce qu'on l'amorce ?
Déjà, je serais presque à contester le chiffre de deux tiers de la ville de 2050 qui est déjà là, parce qu'en fait, effectivement, je pense que tu prends ce chiffre, on va dire, de 1% plus ou moins de renouvellement ou de construction par an, donc fois 30 ans, nous voilà avec un petit tiers de la ville à construire. Et effectivement, si on se reporte à ce qu'on vient de dire, finalement, est-ce qu'il faut construire ce tiers supplémentaire,
ouais. Enfin, même ça, c'est moitié, si on continue comme avant, on n'a plus qu'un tiers à construire, tout à fait.
Exactement. Donc en fait, il faudrait, moi, j'appellerais de mes voeux une ville de 2050 qui en termes en tout cas d'emprise, d'ailleurs que ça soit horizontale ou verticale, puisque pour l'instant on fait un peu les deux, hein, on densifie et on étale, c'est quand même un peu couillon, hein, en fait, on dit faut densifier pour pas étaler, mais en fait pour l'instant on fait les deux. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir des villes de 2050 dont l'emprise dans toutes les dimensions est pas tellement plus grosse que celle de 2020, en fait c'est un peu ça l'enjeu, quoi. Et si on veut réussir la transition au sens large, c'est-à-dire aussi sur les questions de mobilité, sur les questions de consommation en termes de chauffage, par exemple, il faut être capable plus la ville s'étale et plus il y a quand même des chances. Alors on peut convoquer la polycentricité, etc., mais il y a quand même des chances pour que les déplacements ne freinent pas trop. Donc oui, il faut se concentrer sur beaucoup sur l'existant. C'est vrai que j'avais dans l'âge des low-tech, effectivement, il y a 5-6 ans de ça, Voilà, tout le monde est pour les grands programmes de rénovation thermique et d'isolation, des passoires énergétiques, etc. J'avais dit, mais bon, vous êtes gentil, mais finalement, au rythme où on va aujourd'hui, on fait moins de 20% pour le coup de rénovation thermique en termes de parc de logements. On doit se balader à quelques centaines de milliers. Il y a 30 millions de logements en France. Alors, ce ne sont pas tous passoires thermiques, mais pas très loin. Il suffit de faire le calcul par rapport aux différentes réglementations thermiques. Et donc, finalement, mais attendez, au rythme où on va, il faut un siècle. Donc, voilà, c'est ça qui m'avait incité à dire. Ce qu'il faudrait d'abord faire, c'est enfiler tous un pull et baisser la température de chauffage et s'habituer. Et puis, finalement, retourner dans les tavernes et fêter le retour du printemps comme il se doit quand la température augmente. Mais c'est un petit peu idiot de dire ça. Mais c'est, faut savoir, par exemple, qu'il y a eu un rapport qui est sorti en Allemagne là, à l'automne, il y a eu un rapport sur la question de la rénovation thermique. Alors en fait, je pense qu'il faut analyser toute une série de paramètres dessous, mais on va dire à grosse maille, ils ont mis 340 milliards d'euros sur la table, ils ont rénové des bâtiments, ils ont gagné 1 kWh par mètre carré par an. Ils sont passés de 131 à 130 en moyenne.
Effet rebond, les gens ont monté le thermostat.
Presque sans s'en rendre compte, voilà, c'est le décalage un peu des points de référence. Donc effectivement, il faut mettre le paquet sur la question de la réhabilitation. Je pense qu'effectivement, si toute l'énergie qu'on mettait sur tous neuf, dont une partie, franchement, j'ai du mal à croire que ça soit autre chose qu'une sorte de support spéculatif. Bien sûr, on n'est pas en train de faire des résidences avec des golfs autour, comme dans les grandes années espagnoles, où personne les a finis, ou des aéroports. Mais bon, il y a quand même, je veux dire, les surfaces commerciales qui augmentent non seulement plus vite que la population, mais surtout plus vite que le taux de dépenses dans les magasins. Donc, il y a quand même un moment où le truc, il est forcément... ça doit banqueroûter à un endroit ou à un autre et on transforme les anciens parkings en pistes de cartes, j'imagine, et en jardinande. Bon, donc on a quand même, voilà, il va falloir sortir de ces réflexes-là. Et ce qui me semble, c'est que là aussi, il y a une intervention à plusieurs échelles. Alors, c'est un petit peu difficile parce que voilà, en se disant, nous, les praticiens de la ville, voilà, on est un petit peu enchâssés dans un système, et puis on va faire avec ce qu'on peut. Et puis les décideurs locaux, d'une certaine manière aussi. Mais finalement, il faudrait la couche du bon réflexe et des bonnes évolutions réglementaires, fiscales, etc., à l'échelle, on va dire, de la ville ou des métropoles. Mais je pense qu'il va falloir la couche étatique d'une nouvelle impulsion de décentralisation, hein, une sorte de décentralisation, je sais pas comment on l'appelle, 3.0, 4.0, enfin acte 4 ou acte 5, je ne sais pas. Parce que je veux dire, in fine, quand même, faut juste se rendre compte que à chaque fois qu'on a un habitant supplémentaire en France, on met en construction deux logements, par exemple. Donc, il y a un côté un petit peu. Alors, je sais qu'il y a des évolutions sociales, sociologiques, etc. Bon, il y a plein. Et puis, mais voilà, on vit quand même dans un système économique d'attractivité de territoire, d'attractivité de métropole, de fonctionnement économique qui fait qu'on construit deux fois plus de logements que le nombre de personnes. Ou dit autrement, si on prenait juste l'augmentation du nombre d'habitants en France, il suffirait. Alors, c'est complètement ridicule, évidemment, comme calcul, mais c'est juste pour se mettre ça tranquillement en tête. Il suffirait de construire, enfin, de les accueillir dans 2 à 3 logements par commune de France. Et ça suffirait. Et le vacant, il y a 3 décennies de vacants devant nous par rapport à l'augmentation de la population. Donc, il y a un moment où, voilà, il va falloir changer ce paradigme-là et il faudra que la puissance publique, à travers sa propre exemplarité, donc, c'était l'ENA à Strasbourg et l'ADEME à Angers, mais bon, vous voyez, dans les années 80, bon, il va falloir aller vers de la déconcentration, vers de la désurbanisation, vers de la redynamisation des sous-préfectures et derrière des petites villes, des villages, etc., pour désengorger, d'une certaine manière, des métropoles dont la trajectoire ne peut être que l'étouffement, quoi, à terme.
Parler développement, mais pas forcément croissance. Voilà, transformation de l'existant, mais on voit bien, c'est loin de concerner uniquement une profession ou des règles de l'art. Hein, qu'un cadre réglementaire, c'est vraiment un changement de système là qui est important. Donc ça veut dire que on est concerné en tant que citoyen, en tant que professionnel, en tant qu'élu éventuellement, ou en tout cas dans la façon dont on vote. Alors, au titre professionnel, puisque t'étais bien là, au titre à double casquette, hein, à la fois d'auteur mais d'acteur aussi. Donc construire moins, donc miser sur la sobriété, le low tech. On vient de le dire, travailler sur l'existant et moins ou pas, d'ailleurs, pas sur le neuf, voire même ne pas construire. Donc ça, c'est des changements qui sont quand même majeurs pour notre société, mais aussi nos organisations, nos professions, nos pratiques et in fine aussi nos économies propres. Non. Donc, bon, moi, c'est assez facile hein, de faire bifurquer une boîte comme Dixit.net. Hein, c'est léger, on dit agile, mais c'est surtout tout petit et ça peut se repositionner assez facilement. C'est pas tout à fait le cas d'une structure comme AREP. Et en même temps, le contraste est saisissant, mais aussi important. C'est-à-dire que autour de la table, on a aussi des acteurs qui sont des citoyens consciencieux, conscients dans bien des cas, qui ont envie de changer aussi dans ce qu'ils font pendant quelques dizaines d'heures de leur semaine, d'un temps de travail, et finalement de mettre raccord le citoyen engagé et le professionnel qui peut l'être aussi. Comment on fait pour faire bifurquer une organisation alors que l'ensemble du système n'a pas encore tourné?
On essaye de tenir un discours de vérité qui finalement délie aussi les langues et libère la parole. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir ces échanges-là avec l'ensemble des collaborateurs. C'est vrai qu'AREP, c'est une grosse machine, c'est 1000 personnes, alors dans un peu toutes les disciplines qui vont du conseil à maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu'à des expertises plus pointues autour des flux, par exemple, en passant par tous les métiers de la conception, enfin de la maîtrise d'œuvre et puis de l'ingénierie. On essaye de. Alors, le terreau, on va dire, est relativement fertile, on pourrait dire, parce qu'une grande partie de notre activité, elle est liée plutôt aux réhabilitations de gares. Donc, c'est de la réhabilitation, c'est plutôt en général des programmes de, on va dire, d'embellissement. On en profite pour aussi travailler l'intermodalité, la question du vélo, la question des parvis, peut-être la déminéralisation, etc. Donc, globalement, voilà, il y a plutôt une attention forte sur ces sujets-là. En général, on ne rentre pas forcément chez AREP par hasard parce qu'il y a un peu ce côté bien commun, transport en commun, etc. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai que nous, on vient de sortir d'ailleurs notre manifeste là. Donc on dit qu'on veut contribuer à inventer un monde post-carbone. Bon, donc on n'a pas froid aux yeux. On va dire, on y contribue. On va pas être tout seul. Et ce, un peu à toutes les échelles. Donc, on commence à le faire d'ailleurs et on brûle de plus en plus de travailler avec les territoires à toutes les échelles sur la question de la transition et vraiment une réelle transition et pas être dans le greenwashing, donc qui embarque des questions de mobilité, de construction, d'urbanisme, de schéma directeur, etc. Bon, alors c'est vrai que je le disais encore tout à l'heure, tout ça passe par la commande et par la maîtrise d'ouvrage. Donc on a une chance aussi, c'est que finalement on a une proximité assez grande avec un de nos grands maîtres d'ouvrage qui est donc SNCF Gare et Connexion. Et puis dans une moindre mesure, on travaille aussi avec SNCF Réseau, avec SNCF Immobilier, etc. Un certain nombre de bâtiments, notamment des bâtiments industriels pour la maintenance du matériel roulant. Donc là, on s'inscrit, on va dire, et on joue et on surjoue du programme SNCF qui, lui, voilà, annonce qu'on sera zéro carbone, zéro déchet, zéro plein de choses à horizon 2030, 35, 50. Mais il y a des choses qui sont plus proches. Il y a une réelle volonté stratégique là, avec des échéances qui se baladent à 2025. Donc, ça commence à être quand même plus opérationnel, on va dire. Bon. Mais il y a un travail énorme là aussi et on est quasiment dans de l'anthropologique, hein, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont plus ou moins envie, il y a aussi plus ou moins de prise de risque. Hein, quand on parlait tout à l'heure de la question du juste dimensionnement, vous imaginez bien que dans des gares, dans des bâtiments de maintenance, des choses comme ça, on peut pas dire qu'on va se planter ou je sais pas quoi et que 3 ans plus tard ou 5 ans plus tard, en fait, le truc est plus. Voilà. Donc il y a des questions autour de ça et en même temps il y a une volonté de frugalité environnementale, mais aussi et peut-être d'abord économique, bien sûr, parce qu'il y a la question des investissements. Quand derrière, c'est de l'argent public, donc on ne doit pas faire n'importe quoi. Donc, donc ces tensions, elles existent, etc. Et donc, il y a des gens avec qui on avance plus ou moins vite, il y a des choses sur lesquelles on se bat plus ou moins fort, il y a des coûts qui sont partis, et on les laisse partir, c'est pas grave, on se concentre sur d'autres choses. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, on est en train de mettre en œuvre. Alors, c'est exactement les enjeux qu'on citait tout à l'heure, hein, la question de l'énergie, de la matière, du carbone, de l'adaptation au climat avec le coût qui est parti, de la biodiversité aussi. Et on déroule maintenant des formations, des méthodologies, des réflexes dans l'ensemble de nos projets. Enfin, on est en train de déployer ça dans l'ensemble de nos projets et à toutes les phases avec l'espoir. Enfin, nous, on a une cinquantaine de programmistes, par exemple. Moi, je rêve que mes programmistes deviennent des chasseurs de mètres carrés, quoi. Des destructeurs de mètres carrés et qu'ils incitent effectivement des clients. Alors c'est vrai qu'il y a des effets pervers, on connaît les effets pervers de la loi MOP ou de ses dérivés, au sens finalement là aujourd'hui, il faudrait peut-être mettre autant de jus de cervelle pour justement réfléchir à toutes ces questions d'adaptabilité, de mutation, etc., de scénariser différentes options pour trouver les meilleurs concepts constructifs, etc. Ben finalement, après, on est payé. Enfin, plus on en tartine et plus on est payé. Enfin, il y a un côté, voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faudra peut-être aussi bouger, même dans le modèle économique, finalement. Et après tout, on y est prêt, quoi.
Complètement. Donc, j'ai l'habitude de rappeler qu'on va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Donc, ce que je comprends, c'est que dans des organisations un peu plus lourdes hein, que la mienne, faut la volonté. Hein. Je pense que là clairement, vous l'avez affirmé, en tout cas à l'extérieur, mais aussi en interne. Pour autant, ça crée pas des révolutions. Ça se fait pas en un jour. Sans doute ouvrir les paroles. Je retiens ça aussi parce que ça doit être important aussi en interne pour chacun à un moment de pouvoir dire ce qu'on vit là-dessus et qu'on a envie d'être raccord entre la maison et le bureau. Et aussi et surtout un effort continu. Donc c'est work in progress. On l'a bien compris.
Juste un petit élément d'éclairage, c'est que je pense que pour toutes les grandes entreprises en particulier, la question de l'attractivité, elle se pose et que pour attirer, retenir des talents, le temps du greenwashing est en train de se terminer. Quoi. Ça sera pas possible de dire qu'on fait sans faire. Quoi. Je veux dire, les petits jeunes qui sortent de toutes les écoles, et on sait qu'en particulier, les architectes, les designers, les ingénieurs sont particulièrement sensibles à cette question de la matérialité parce que finalement, ils y sont confrontés, ils la comprennent peut-être mieux que, je sais pas, des gens qui font des études d'économie, peut-être. Ben, il va falloir faire pour de vrai. Quoi. Sinon, ils resteront pas ou ils viendront pas.
Mais en ce moment, small is beautiful et ça me va bien. Alors, avant de clore notre échange, est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nos auditeurs?
Ouais, alors tout à l'heure, je vais parler un peu des différentes échelles et que finalement, il fallait toujours se poser la question de l'échelle par rapport aux décisions qu'on pouvait prendre. Je sais pas, on va dire, est-ce que vous êtes pour ou contre la concurrence? Moi, ça dépend. Hein. Je suis pour les concurrences entre boulangeries, mais peut-être dans les centrales nucléaires, je suis moins branché par la concurrence. Par exemple, est-ce que vous êtes pour ou contre la démocratie participative? Pour décider qu'on va installer une jardinière dans la rue, je suis assez branché, mais pour faire tourner la centrale nucléaire, je trouve qu'il faut sans doute une organisation un petit peu plus hiérarchique. Voilà. Donc cette question de l'échelle, elle est hyper importante, elle se pose de manière sublime, évidemment, dans nos métiers. Et donc il y a un livre que j'aime beaucoup qui est sorti en 2014, la même année que l'âge d'Élotech, de Olivier Rey, qui s'appelle « Une question de taille ». Et qui remet en fait au goût du jour la pensée de Schumacher, Small is Beautiful, de son maître à penser qui était quelqu'un qui s'appelait Leopold Kohr, qui recommandait à l'époque aux États-Unis de se découper en une fédération avec des cantons de la taille de la Suisse. Il n'a pas eu succès, mais et puis de la pensée aussi d'Ivan Illich, la question de la convivialité et de la technologie à hauteur d'homme, on pourrait dire, ou de la technologie autonome, comme on aurait dit André Gore. Donc, Olivier Rey, question de taille, c'est un super bouquin.
Parfait, on lira ça. C'est pas encore fait pour moi. Merci beaucoup, Philippe, pour cet échange et donc pour ce conseil de lecture. Donc, on ne manquera pas de le suivre. Je me permets aussi de conseiller aux auditeurs les deux livres, enfin, notamment tes deux derniers livres, donc L'âge d'Élotech, dont on a beaucoup entendu parler, mais aussi Le bonheur était pour demain, que j'ai particulièrement apprécié, qui est peut-être sur une autre échelle, sous-titré Rêverie d'un ingénieur solitaire. Donc, c'est au seuil. C'est pas tellement des rêveries, hein. On est sur du très concret. Et puis aussi, bien entendu, je vais conseiller la lecture de ta préface de mon bouquin. Alors évidemment, vous pouvez le retrouver dans le manifeste pour un urbanisme circulaire aux éditions Apogée, mais aussi tout simplement en ligne. En tout cas, pour ce qui est de la préface, ça vous oblige pas à lire mon bouquin, mais comme ça, vous pourrez, sans l'acheter, lire cette préface qui est particulièrement intéressante, notamment sur cette période où on va avoir pas mal de débats sur la question de l'artificialisation des sols, notamment suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Merci encore pour cet échange, Philippe, et à très bientôt.
Merci, Sylvain.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.